Qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir? Ah, je sais. Anne va me donner des recettes simples et délicieuses.
Mettez votre tablier, sortez vos ustensiles et préparez-vous. C'est l'heure de Food Anne sur Infini Radio.
Eh bien, bonsoir à tous. Bonsoir Nathalie, bonsoir Théo. J'espère que vous allez bien ce début de semaine après ce long week-end de Pâques. Ça a été sympa. Comment ? Il a fait beau, alors j'espère que vous avez trouvé plein de chocolat, de bons chocolats, et que vous êtes régalés sans abuser, hein, bien entendu, hein, parce que, attention à la crise de foie, si vous en avez de trop, il se pourrait que je trouve des recettes, là, peut-être la semaine prochaine, je verrai, avec justement des chocolats de Pâques, voilà, à faire fondre, des choses comme ça. Ça pourrait être sympa, c'est réutiliser plutôt que de les manger. Bon, c'est bien, mais quand on a, moi souvent j'en ai trop, parce que on m'en offre, j'en donne, bon, j'en achète aussi, et quand j'en ai trop, ben du coup je trouve des astuces pour les utiliser dans ma pâtisserie. Voilà, donc peut-être que je trouverai ça pour la semaine prochaine, je vais voir. Voilà. Je vous donnerai bon tuyau. Voyons ensemble le menu que j'ai trouvé aujourd'hui, donc avec des recettes toujours aussi faciles et rapides à réaliser, et surtout délicieuses. Alors aujourd'hui, nous allons faire donc des boulettes de crabe, donc pour 35 pièces, hein, donc des belles boulettes de 35 pièces. On a besoin d'un demi-oignon, d'une pincée de piment, de l'huile de friture, de 360 g de crabe, donc c'est de la chair de crabe en boîte, hein, vous trouverez ça, ou même avec du surimi, ça fonctionne aussi, hein, mais faut bien le hacher. 80 g de chapelure, donc je ne vous explique pas à la chapelure comment on en fait, parce que maintenant vous savez, hein, ceux qui nous suivent régulièrement. Ensuite, on a besoin de 2 carrés frais nature, 2 œufs, 1 cuillère à soupe de jus de citron. Et puis une cuillère à café de ciboulette, donc ce qui équivaut à peu près 2-3 pincées. Au côté matériel, on aura besoin d'un mixeur, d'un saladier, d'une cuillère en bois, d'une friteuse, d'un presse-agrumes, de 2 cuillères à café et du papier absorbant. Et puis on ira l'accompagner, ces boulettes de crabe, on les accompagnera d'une sauce ranch. Alors vous ne savez pas ce que c'est, mis à part les ingrédients, et on vous expliquera ce que c'est exactement la sauce ranch. On a besoin pour cette sauce d'une demi-cuillère à café d'aneth, donc sèche, donc c'est à peu près 2-3 pincées, une demi-cuillère à café d'oignon en poudre, si vous avez ça sous la main, c'est bien. Sinon, ben, ça sera plus une sauce ranch. Ça se trouve.
C'est forcément en poudre.
Oui, c'est mieux. C'est mieux. C'est juste pour donner le goût, en fin de compte, de l'oignon, sans qu'on ait les petits grains d'oignon dedans. 200, donc du persil, du sel, du poivre, 200 g de yaourt, donc ça, à la grecque, ça fait à peu près 1 voire 2. On mettra 2 pour cette recette. 4 cuillères à soupe de mayonnaise, une demi-cuillère à café d'ail en poudre et une échalote et de la ciboulette. Donc au niveau matériel, on aura besoin d'un bol, d'un fouet, d'un couteau, d'un mixeur et d'un fouet. Bon, d'un seul fouet, ça suffit. J'ai marqué deux. C'est du grand n'importe quoi, je fais des répétitions. Ensuite, on ira côté lasagne aux épinards. Donc essentiellement, ça sera végétarien. On aura besoin d'un cube bouillon de volaille. Plus ou moins, hein, donc végétarien, puisqu'on a de la volaille, bouillon de volaille. Voilà, pour ceux qui n'aiment pas trop la viande, ça peut être bien aussi. Je vous dirai une petite astuce, on peut rajouter, je vous l'ai dit tout de suite, on peut rajouter du chèvre à l'intérieur, on peut rajouter des petites choses qu'on a en plus. Les lasagnes, vous pouvez rajouter, les lasagnes aux épinards, vous pouvez aussi rajouter des œufs durs dedans, voilà, c'est comme on veut, comme on le sent, et la création dans la cuisine est pas mal. Donc, pour ces lasagnes aux épinards, il nous faudra donc un cube de bouillon de volaille, 8 à 10 lasagnes selon les épaisseurs et les grosseurs, et le plat que vous aurez, évidemment. Du gruyère râpé. Alors, j'ai mis du gruyère râpé, mais vous pouvez très bien tout faire au parmesan. Ça sera encore mieux parce qu'on aura un goût différent. Et vous pouvez aussi mettre du comté râpé. Le goût sera encore différent, pareil. Donc, de l'ail, du persil, du parmesan râpé, 400 g d'épinards hachés surgelés. Vous voyez que là, j'utilise surgelé parce que ben, c'est plus facile. Et puis, comme ça, il n'y a pas de mixage à faire. 2 briques de crème fraîche liquide, 20, donc ça équivaut à 20 centilitres. Et puis pour le matériel, on aura besoin d'un plat à gratin, d'un saladier, d'une casserole, d'un couvercle et d'une cuillère en bois. Et puis en dessert, on fera un mixte avec un cake crumble poire. Donc pour le cake, on va avoir poire chocolat. Essentiellement, je le dis parce que Nathalie, elle me fait des yeux doux, parce que le chocolat et Nathalie, c'est une longue histoire.
Je te confirme.
Ça et le crumble, alors ça. Donc, pour faire plaisir à Nathalie, on a fait le cake crumble chocolat poire. Pour ça, on aura besoin de 200 g de farine, un sachet de levure chimique, 150 g de cassonade, 180 g de cassonade, 200 g de beurre fondu, 4 œufs, 40 g de cacao en poudre non sucré, 2 poires mûres mais fermes. Donc vous avez en ce moment la Comice hein, qui est très bien, ou la Williams, ça peut être aussi bon. Et puis pour la pâte à crumble, on aura besoin de 50 g de farine, 50 g de beurre mou, 50 g de poudre d'amande et 50 g de cassonade. C'est vraiment pas compliqué à se souvenir du crumble. Et puis au niveau du matériel, on aura besoin d'un robot batteur, d'un couteau, d'un saladier, d'un plat à cake et d'une feuille de cuisson. Eh bien voilà, écoutez, voilà le menu de ce soir. Et avant de commencer, je vous propose une pause avant de préparer notre entrée. À tout de suite. We'll be right back.
20h30, cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Alors nous revoici pour notre première partie, à savoir les boulettes de crabe à la sauce ranch. Alors Nathalie, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu peux nous dire sur le crabe ?
Alors le crabe, c'est un nom vernaculaire ambigu, utilisé en français pour désigner de nombreuses espèces de crustacés. Décapodes, on distingue deux grands groupes de crabes en fonction des caractéristiques de leur abdomen, ceux qui font partie des Bachiura, ou vrais crabes, et les pseudo-crabes qui font partie des Anomura, crabes de cocotier, crabes royaux, crabes de porcelaine, crabes taupes. Cependant, toutes les espèces de ces infra-ordres ne sont pas communément qualifiées de crabes, par exemple les araignées de mer, les Bachiura, ou encore les Bernard l'ermite et les Galatées, qui sont des Anomura.
Merci Nathalie.
J'ai
vraiment
l'impression d'être à Tahiti, tu sais, Anomura.
Ah bah oui, c'est ça. Mais tu connais vraiment tout sur... Mais j'arriverai jamais à être coincée en fin de compte.
Non.
Jamais, d'accord. Ok, est-ce que tu as déjà goûté du crabe royal ? Alors c'est une grosse araignée, hein, ça ressemble à une grosse araignée. Ça coûte... horriblement cher, vraiment horriblement cher. Mais si un jour tu as l'occasion de goûter ça, rien qu'une pâte, ça se coupe au ciseau et tu manges la chair. C'est vraiment un crabe qui est mais succulent. Voilà, c'est juste en passant. Si un jour tu as l'occasion d'en manger, mange-en. Et ça se coupe au ciseau, la carcasse, et tu manges vraiment l'intérieur. C'est magnifique. Voilà, c'est juste ça. Voilà, moi j'aime le crabe, donc...
Ah, j'aime bien aussi, ouais,
le crabe. Voilà, mais ça, si jamais t'as l'occasion, voilà, goûte-y. Alors, on va on va commencer déjà. Je vais vous rappeler un petit peu pour la recette pour ces 35 pièces de boulettes de crabe. On aura besoin donc d'un demi-oignon, d'une pincée de piment, de l'huile de friture, de 360 g de chair de crabe, 80 g de chapelure, 2 carrés de carré frais nature, 2 œufs, 2 cuillères à soupe de jus de citron. Merci Nathalie. Et une cuillère à café de ciboulette. Et au niveau matériel, on aura besoin d'un mixeur, d'un saladier, d'une cuillère en bois, d'une friteuse, d'un presse-agrumes, de 2 cuillères à café et de papier absorbant. Alors, pensez qu'il faut au moins 40 minutes en totalité, à savoir il y a 30 minutes de préparation, parce que vous avez quand même 35 pièces, et puis il y a 30 minutes de cuisson, 30 minutes de repos pour la pâte et 10 minutes de cuisson. Vraiment, alors tout dépend de la grosseur de vos boulettes, hein, mais comme on va prendre 2 cuillères à café, ce sera des petites boulettes. Donc comme ça, il y en aura pour tout le monde. Alors, c'est parti pour l'explication. Dans un premier temps, vous allez prendre un hachoir et puis vous allez hacher l'oignon. Alors, ou à l'aide d'un mixeur, c'est comme on veut, un mixeur hachoir, ou alors un couteau. Ça, c'est suivant ce que vous voulez avoir comme texture. Moi, j'aime bien de prendre le mixeur, comme ça, au moins, j'ai tout et compact et je ne me prends pas la tête. Pour suivre, on va mettre donc l'oignon, le crabe, la chapelure, le carré frais, le piment, le jus d'orange dans un saladier.
Le citron.
Depuis la semaine dernière. Le citron s'est transformé en orange.
Ouais.
Mais oui, c'est comme ça. C'est le daltonien peut-être. Non, ça n'aurait rien à voir. Donc oui, c'est du jus de citron et pas du jus d'orange. Du jus de citron, donc que vous aurez bien évidemment pressé. Et puis vous allez mettre tout ça dans un saladier et le mélanger. Tout simplement. Donc voilà, pour le moment on mélange et puis pour vraiment faire une préparation homogène, une fois que tout est bien mélangé, on va ensuite mettre les œufs Et puis on va continuer à mélanger gentiment. Vous pouvez prendre un batteur tout simplement, ou vous pouvez prendre continuer avec votre mixeur, ça aussi, ou alors le mélanger à la cuillère en bois comme vous voulez, comme vous le sentez. Voilà, faut vraiment que la texture soit homogène. S'il y a des petits grains, bah c'est normal puisqu'on a quand même l'oignon et le crabe. Hein, faut pas non plus que ça soit trop lisse.
Oui, c'est hein, ça.
Donc voilà. Bon, après moi perso, j'aime bien hacher, mélanger avec une cuillère en bois, comme ça au moins j'ai et puis j'ai la forme pas forcément de boulette, mais de beignet. Voilà, ça va dans tous les sens. J'aime pas tout ce qui est forcément ou trop rond ou trop carré.
Trop parfait.
Voilà, trop ouais. Parfait. Je trouve que ça fait industriel. Et puis de toute manière, on n'est pas parfait. Et puis on va mettre au frais la préparation dans un saladier. Alors bien évidemment, filmé. Ça, c'est important pour éviter que ça croûte au-dessus pendant 30 minutes. Donc, au bout de 30 minutes, vous allez faire vos boulettes à l'aide d'une cuillère à café. Donc, on prend et vous faites chauffer votre friteuse. Donc, on prend une cuillère à café et avec l'autre cuillère à café, vous voyez où vous arrivez à faire les boules. Mais alors, ne les prenez pas dans les mains parce que de toute manière, ça ne va être pas compact. Ou vous faites une boule style un petit peu quenelle hein, parce que vous façonnez avec deux petites cuillères à café, ou alors vous la faites glisser dans la friteuse avec vos deux cuillères à café, mais attention à ne pas vous bouler. Voilà, et vous allez faire cuire ça 2 à 4 minutes, tout dépend de la grosseur de vos boulettes. Il faut qu'elles soient un peu dorées, pas trop non plus, et puis une fois qu'elles sont bien dorées, et ben vous les mettez dans le papier absorbant. Alors, je vois ta question arriver. Moi, je mets mon panier en bas de la friteuse.
C'était pas ça ma question.
Je mets mon panier en bas de ma friteuse, donc il est dans l'huile. Je mets mes boulettes, voilà, et je les retourne avec une fourchette. Mais elles se retournent en général, elles se retournent tout seules. Ils se retournent. Si ça se retourne pas, je les aide avec une petite une fourchette, sans me brûler évidemment. Et puis après, quand c'est cuit, ben je remonte avec mon panier et je mets sur le papier absorbant. Voilà. J'attends ta question maintenant.
Non, à la place des petites cuillères, est-ce qu'on peut prendre, tu sais, la cuillère à glace?
Je ne suis pas certaine que ça fonctionne pareil.
D'accord.
Parce que la pâte est quand même relativement molle, elle colle. Ah. Donc là, tu vas... Ou alors, tu passes peut-être ta cuillère dans la farine, mais ça m'étonnerait que ça fonctionne.
D'accord.
Voilà. Après, tu peux faire des essais, Nat, hein, et tu nous diras le résultat. Moi, je serais curieuse, mais je ne ferai pas d'essai comme ça, moi. Ça, c'est le genre de choses que je ne ferai pas. Et donc les boulettes, elles sont faites. Vous pouvez les maintenir au chaud, au four, tranquillement. Et vous servez ça avec une sauce tomate pimentée qu'on a peut-être déjà fait ou qu'on fera un autre jour. Ou une crème d'avocat aussi.
Est-ce que j'ai vu un petit guacamole
Alors, ça peut être aussi un guacamole. Là, c'est un petit bonus que je donne. C'est une crème d'avocat. Donc, il suffit de mixer un avocat épluché dénoyauté avec un yaourt, une gousse d'ail. Et voilà, c'est tout. Simple. On a une crème d'avocat. Et vous avez encore la solution de la sauce ranche que je vais vous présenter.
Tu dis ranche ?
Ranche. Ranche.
C'est pas ranch ?
Non, moi je dis ranche.
Okay.
Ah, c'est peut-être ranch. Oui, parce que c'est américain, donc
oui,
c'est ranch. Oui, mais moi je dis ranch. bon. Je suis française, donc j'ai dit ranch. Voilà. Ça, c'est comme butternut. C'est comme ça.
C'est
exactement la même chose. Il y a des choses. C'est comme, tu vois, c'est 20, c'est comme rose. Enfin, c'est pareil. Dans le Nord.
Ça, c'est le Nord.
Il y a des mots que j'arrive pas à dire. Voilà, c'est comme ça. Et puis, à l'âge que j'ai, je pense qu'on me refera pas. Alors, pour cette fameuse sauce ranch, on va avoir besoin d'une demi-cuillère à café d'aneth sèche, une demi-cuillère à café d'oignon en poudre, du persil, du sel, du poivre, 20 centilitres de yaourt à la grecque.
200 grammes.
J'ai dit 20 centilitres, mais
c'est
200 grammes.
Environ. environ.
En général, ça fait 2 yaourts, 4 cuillères à soupe de mayo et une demi-cuillère à café d'ail en poudre, une échalote par contre et une, de la ciboulette, donc fraîche ou déshydratée, mais fraîche c'est mieux puisqu'on aura plus de goût de ce qu'on recherche. Et puis un bol, un fouet, un couteau, un mixeur et voilà, vous comptez 10 minutes pour cette préparation là. Vous voyez, vous avez deux sauces, la crème avocat et puis la sauce ranch. C'est vraiment top. Puis ça fait des jolies couleurs. Alors, dans un premier temps, on va hacher finement le persil, ciseler la ciboulette et on va au mixeur hacher ou à la main, c'est comme vous voulez. Vous allez aussi peler et émincer l'échalote et puis vous allez verser les deux yaourts à la grecque dans le bol et vous allez détendre à l'aide du fouet. Donc en fin de compte, vous mettez ça tout ça dans un bol et quand tout est bien mixé, vous ajoutez la mayo, l'ail, l'oignon en poudre, l'aneth, l'échalote, donc émincé bien évidemment, le persil haché et ainsi que la ciboulette hachée. Vous salez, vous poivrez, vous mélangez bien toute cette préparation et votre sauce, faut qu'elle soit un peu homogène. Alors s'il y a des petits grains, bah, c'est normal parce qu'on a l'échalote, on a le persil et la ciboulette qui vont ressortir. Voilà. Et puis si vous utilisez une mayo toute prête, hein, ben pour réaliser cette sauce, vous pourrez la conserver à peu près 5 jours. Au réfrigérateur avec un contenant hermétique, hein, donc avec une boîte en plastique avec un couvercle. Si par contre vous utilisez une mayonnaise maison, la sauce se conserve 2 jours, pas plus. Voilà, hein, on est bien d'accord. Donc et puis cette mayonnaise maison. Alors moi, je vais vous donner ma petite astuce, parce que c'est la mayonnaise maison, en 10 minutes, elle est faite, hein. Même en 5 minutes. Alors, pour les ingrédients de cette mayo, il faut un jaune d'œuf, un peu de sel, un peu de poivre, une cuillère à soupe de moutarde, un filet de vinaigre. Vous fouettez ou alors vous plongez. Alors moi, j'adore ce système-là. C'est Alain qui me l'a donné, mon mari. Parce que moi, avant, je faisais le fouet, machin, patin couffin. Et lui, il met les ingrédients. Alors, il met la moutarde à l'intérieur. Il met 10 centilitres d'huile. Il met l'œuf, le jaune d'œuf, pas le vinaigre. Il met le jaune d'œuf, il met la moutarde, il met l'huile. Il plonge, tenez-vous bien, moi je l'ai déjà fait comme ça et c'est génial. Il plonge, vous savez, le mixeur plongeant, ouais, avec lequel on fait des soupes. Et ben, il plonge ça dedans et sa mayo, elle est faite en moins de 2. Il verse délicatement, petit à petit, les 10 centilitres d'huile et la mayonnaise, elle s'épaissit peu à peu et vraiment, on a quelque chose de super sympa. Et puis à la fin, ben, vous rajoutez un filet de vinaigre, ou des herbes, ou encore un filet de citron, voilà, tout dépend de ce que vous voulez parfumer. Voilà, c'est des choses qui sont très simples, mais qu'on oublie de faire, et vraiment qui sont très très bonnes, surtout. N'oublions pas. Alors, Nathalie, justement, la sauce ranch.
J'ai une question.
Oui, dis-moi.
Quand on n'aime pas la mayonnaise, ce qui est mon cas,
oui,
est-ce qu'on peut mettre autre chose?
J'ai jamais fait ça, mais tu peux essayer de faire qu'avec le yaourt, mais ça risque d'être un peu plus liquide.
Ouais, c'est ça.
Ouais, ouais. Okay. Et t'aimes pas la mayo?
J'ai horreur de ça.
Ah, ma pauvre.
Non,
tu sais
non,
pas
non,
ce que tu manques.
Ouais, ouais.
Eh bien, écoute, avant de nous dire des petits trucs sur la sauce ranch,
oui,
et mayo, ben, écoute, je te propose une pause et puis on se retrouve tout de suite pour les explications.
Salut, c'est Pierre Demar, vous écoutez Infini Radio.
Mon père adore le foot, crée, allez les rouges dans sa tête. Il dort, réveillons pas ma mère sans aucun doute. Rêve d'un boy scout, capitaine, à bord du Seine, ta Maria. Je voudrais bien.
jusqu'à 20h30, cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Alors nous revoici, et puis avant donc la pause, on avait dit qu'on parlerait de la sauce ranche. Donc Nathalie, est-ce que tu peux nous parler de deux choses? La sauce ranche et puis la mayo. Allez.
Alors la sauce ranch ou ranch dressing est utilisée pour assaisonner par exemple les salades aux États-Unis, donc c'est bien américain, ou bien servir de trempette. C'est mignon, trempette comme mot. Quant à la sauce mayonnaise, pourrait tirer son origine de la rémoulade ancienne. Une autre hypothèse la ferait dériver de l'aioli. Et enfin, le procédé d'émulsion au jaune d'œuf était connu de longue date des pharmaciens qui l'utilisaient pour préparer pommades et onguents. La sauce rémoulade était connue depuis longtemps et il en existait des versions chaudes ou froides. Dans les deux cas, la base en était l'huile, le vinaigre, le sel, les herbes, souvent encore d'autres ingrédients comme des câpres ou des anchois, puis de la moutarde. Bref, ce n'était alors qu'une vinaigrette enrichie. Recette des pigeons au beurre de Provence. Voilà, une petite recette des pigeons au beurre de Provence. Au XVIIIe siècle, Vincent La Chapelle eut l'idée d'y incorporer du velouté à base de roux. Je ne sais pas si tu pourras rappeler ce qu'est le roux pour la lier.
De suite, le roux, en fin de compte, c'est du beurre avec de la farine. Farine, tout simplement.
Ça, exactement. En 1742, François Marin publie dans la suite des dons de Comus une recette appelée beurre de Provence qui contient des gousses d'ail cuites dans l'eau, écrasées avec du sel, du poivre, des câpres et des anchois, puis mélangées avec de l'huile. Cette recette est aussi plus proche de l'aioli. Le jaune d'œuf apparaîtra plus tard. En 1806, André Viard, dans Le cuisinier impérial, transforme cette recette de la rémoulade en remplaçant le roux par du jaune d'œuf. Dans une autre recette, une rémoulade indienne. Sans moutarde, il précise que la liaison est facilitée en incorporant l'huile peu à peu. Il s'agirait de la première mention moderne d'une sauce émulsionnée, stable, froide. Dans le même livre, il propose aussi une sauce dite mayonnaise, première attestation répertoriée du nom, mais qui n'est pas une émulsion, mais une sauce liée au velouté et à la gelée. Ce n'est qu'en 1815 qu'on trouve chez Antonin Carême trace d'une mayonnaise, on disait, froide, émulsionnée au jaune d'œuf.
Nathalie, donc en fin de compte, l'ancêtre de la mayonnaise, c'est l'aioli. Hein.
C'est l'aioli. C'est,
voilà, donc ouais. Bon, on va encore avoir les gens de Marseille qui vont nous dire,
c'est nous.
C'est nous. on n'a rien contre les gens de Marseille, hein, qu'on se le dise. Alors, on va voir dans la préparation de nos lasagnes, qui est notre plat principal ce soir, les lasagnes aux épinards. Alors, on utilise souvent un cube bouillon. Et j'aimerais que tu nous parles un peu de ce cube bouillon.
Le bouillon cube ou le cube de bouillon fut inventé dans les années 1870 par Claude-Émile Théodore Urban. Alors, au début, il s'agissait d'extraits de viande, je sais pas pourquoi je rajoute un R. En 1908, Julius Magie, oui c'est encore une marque mais c'est son nom, commença sa commercialisation de bouillon dans sa forme de cube, produit déshydraté. Aujourd'hui, il existe différents types de cubes qui ne contiennent pas toujours de la viande. Les principaux ingrédients d'un bouillon de cube sont du sel, malt, dextrine, des exhausteurs de goût. Je ne vous dirai pas tous les noms, mais de l'extrait de levure par exemple, de l'huile, des arômes, et suivant le produit, peuvent être à rajouter de l'extrait de viande, de légumes et du sucre. En revanche, la recette d'un bouillon cube bio ne contient en principe aucun exhausteur de goût.
Merci Nathalie. Alors, dans cette recette, on a un bouillon de volaille, mais vous pouvez très bien mettre un bouillon de légumes à la place un cube de bouillon de légumes. Comme ça, là, pour les végétariens, on n'a pas de souci. Ouais. Voilà, donc il vous faudra de toute manière un cube bouillon, peu importe hein, s'il est de volaille ou de légumes, 8 à 10 lasagnes selon les épaisseurs, du gruyère râpé, de l'ail, du parmesan râpé, du persil, 400 g d'épinards hachés et surgelés, 2 briques de crème liquide, ce qui équivaut à 20 centilitres.
Elles font pas chacune 20 centilitres, c'est peut-être 40 du coup, non ?
Non. Oui, tu as raison, excuse-moi.
Ouais, une brique, ça fait 20.
Voilà, donc c'est 20, c'est 40 centilitres, excusez-moi. Et un plat à gratin. Tu as raison. C'est bien de le préciser parce que plus il y a de la crème, mieux c'est. Parce que si c'est trop sec, c'est pas bon. Mmh. Et puis, il nous faudra pour le matériel un plat à gratin, bien évidemment, un saladier, une casserole, un couvercle et deux cuillères en bois. Voilà. Et pour la recette, on aura besoin d'un temps total de 45 minutes. Donc 15 minutes de préparation et 30 minutes de cuisson. Vous allez voir, ça va être très rapide. Donc dans un premier temps, on va mettre dans une casserole les briques, donc une brique de crème liquide avec le cube de bouillon. Alors volaille ou légumes, c'est comme on veut. Et dès que le cube est dissous, vous ajoutez les épinards surgelés dedans et vous rajoutez la deuxième brique. Vous couvrez et vous laissez à fondre tout doucement à feu doux pendant 6 à 7 minutes. Ça va relativement vite. Alors, c'est à feu doux, il ne faut pas que ça boue, parce que sinon, votre crème fraîche, elle va se mettre en granulé. Mmh. Et ça ne va pas être superbe. Elle va se transformer en beurre, et c'est ça, tout le gras. Donc, il faut vraiment que ça soit à feu doux. C'est l'histoire de faire fondre un petit peu ces épinards surgelés. Vous mélangez régulièrement, pour éviter que ça accroche au fond. Et puis, le mélange doit être un petit peu épais, bien sûr, puisqu'on a les épinards. Et si jamais c'est trop épais, dans ces cas-là, vous rajoutez un petit peu de lait. Et puis, dans un plat à gratin, vous allez commencer à verser une première couche de sauce que vous avez fait donc, avec les épinards sur le fond. Ça, c'est pour la première couche. Donc, on met une couche de sauce. On met une deuxième couche, c'est les lasagnes, de façon à ce que ça ne colle pas. Si vous mettez les lasagnes directement sur votre plat, ça va coller. Ah oui, oui. Donc il vaut mieux mettre une dose, c'est un centimètre à peu près, hein, et vous posez dessus les lasagnes, et ainsi de suite, jusqu'à temps que vous ayez utilisé toutes les lasagnes. Vous les croisez ou vous les croisez pas, peu importe. Mais pour terminer, donc vous n'oubliez pas qu'à chaque couche, vous rajoutez du gruyère ou du parmesan. Et vous mélangez les deux, ça peut être sympa. Et puis vous faites vos couches progressivement. Pour finir, vous terminez avec le gruyère et le parmesan et une fine couche de chapelure pour le croquant. Voilà, vous enfournez avec de petites noisettes de beurre dessus, mais c'est franchement pas utile parce qu'on a quand même la crème fraîche qui va faire office de beurre. Et puis l'ensemble, vous allez le mettre au four à peu près donc 30 minutes à 200 degrés. Voilà. Et puis vous allez on peut s'amuser à comment librement, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est que vous pouvez rajouter des rondelles de tomates dedans, vous pouvez rajouter du chèvre, vous pouvez rajouter du poulet haché, du poisson haché, donc ça peut changer à chaque fois de choses. Faites un avec des œufs durs aussi, ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, vous pouvez mélanger à droite, à gauche, ça peut être sympa. Moi j'ai essayé avec le saumon épinard, ah, c'est super bon. Chèvre épinard, c'est un voilà, et les œufs durs aussi, c'est très très bon. Voilà, donc écoutez, on va passer par une pause et puis on aura une explication sur les épinards tout de suite après. À tout de suite.
Salut, c'est Emma Peters sur Infini Radio.
Je suis pas d'humeur, j'ai mal dormi, je vais me faire un verre. J'ai pas d'amour, j'ai pas d'amis, donc pas d'emmerde. Pas de paradis, pas d'utopie, j'ai pas d'enfer. Moi, quand je mourrai, quand tout sera fini, je ferai pas de manière. Je crois plus en Dieu depuis que lui ne croit plus en moi. Je crois plus en toi, t'as dit je t'aime, tu le pensais pas. Cerveau surchauffe, pourquoi ma tête est faite comme ça? Mon corps t'a menti, j'ai pas kiffé tant que ça. Je fais ce que je veux, je m'en fous de l'heure qu'il est. Je pleure dans le micro, je gagne des milliers. Chez moi c'est Noël toute l'année. On avance solo, on vise les sommets. Souvent je trébuche, je suis compliqué. Armure en béton, pas d'embûche, je fais que briller. Un jour je vais me calmer pour laisser quelqu'un m'aimer. Oui, je check mes likes, mais juste pour voir si t'as liké. Toutes mes névroses me portent bonheur, j'en fais de la prose, j'en fais du beurre. Tout ce qui me tue pas, c'est full bonus. Je kiffe les yeux noirs, je trouve qu'ils brillent plus. Paris, visite en octilien, mais tu feras tes stories de mots. On avance solo.
Cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Alors nous revoici et puis avant la pause, moi j'avais envie que Nathalie nous parle des épinards comme Popeye.
Ouais.
Anne et Nathalie, un petit peu de Popeye.
Alors l'épinard, ce plus connu ou pas d'ailleurs, sous le nom de Spinacea oleracea, voilà, parce que je suis grecque. C'est une plante potagère annuelle ou biannuelle de la famille des Chenopodiaceae, selon les classifications, originaire d'Iran. Il est aujourd'hui cultivé dans toutes les régions tempérées pour ses qualités nutritionnelles. Il est célébré dans la bande dessinée Popeye, tu en parlais tout à l'heure, comme un légume riche en fer qui donne de la force aux héros, bien qu'en réalité sa teneur en fer ne soit pas particulièrement élevée. Voilà, c'est une légende. Le lieu de domestication de l'épinard serait l'Asie centrale, dans la région des actuels Afghanistan et Tadjikistan, d'où il aurait ensuite gagné la Perse vers le VIe siècle. Il est introduit en Europe au XIIe siècle par les Arabes qui le cultivent dans le sud de l'Espagne. On ignore si son arrivée en France s'est faite par ce biais ou par celui des croisades. Toujours est-il que le mot espinarde est attesté en français en 1256. Au Moyen-Âge, il est mentionné dans des livres tels que le Ménagier de Paris ou le Viandier et surtout mangé au moment du carême, car il se récolte tôt dans l'année. Il a été popularisé par Catherine de Médicis à la Renaissance. Au XVIIe siècle, sa culture remplace celle de nombreux autres légumes tels que la roche ou la livèche, c'est tombé bien parce qu'on ne les connaît pas. En France, il reste pourtant longtemps mal aimé, même si des auteurs comme Stendhal ou Alexandre Dumas cherchent à le réhabiliter Au XIXe siècle, l'épinard est cultivé toute l'année dans les climats tempérés où il fleurit en été en raison de la hausse de la température. Il existe des épinards de printemps, d'été et d'hiver. Selon la date du semis, l'épinard est donc annuel ou biannuel.
Merci Nathalie. Alors, les épinards, je sais que beaucoup d'enfants n'apprécient pas. C'est pour ça que le coup des lasagnes, ça peut être très très bien pour leur faire manger des légumes verts.
C'est vrai.
Voilà, ça, les épinards, vous pouvez le faire en velouté, vous pouvez les faire en plein, en gratin aussi. Quand un enfant n'aime pas les légumes, ce qu'on peut comprendre, vous le transformez, et quand vous le transformez avec quelque chose qu'il aime, ça passe tout seul. Voilà. Et puis, moi, je sais que quand il y en avait un qui n'aimait pas quelque chose, il me disait « Mais maman, qu'est-ce que t'as mis bien ?» Et j'ai dit « Je l'aime bien. » Voilà. Et du coup, je dis « Tu goûtes. » Et après, il me dit « Ouais, mais non, c'est bizarre. » Mais voilà. Moi, je dis toujours « On goûte d'abord. »
Avant de dire « J'aime pas. »
Avant de dire « Je n'aime pas. » Donc, il faut toujours goûter de toute manière en cuisine, comme pour les desserts, comme pour les entrées. Il faut goûter avant de dire qu'on n'aime pas. Voilà. Et je suis sûre que Nathalie, elle a déjà goûté de la mayonnaise.
Ah oui, j'aime pas. ça m'écœure. Hein. C'est même pas que j'aime pas, ça me rendrait malade. Oui.
D'accord. Oui, c'est carrément ça. Donc, c'est même pas la vue.
Oui, Théo ?
J'ajouterais juste que la dernière fois que j'ai réussi à lui en faire manger, c'était en plein Covid, elle avait pas de goût ni d'odorat.
Ah bah
mais là, le dégommait. Hein.
Ah oui, ça glissait tout seul. Bah d'accord. Oui. Bah comme quoi, hein, tu vois, le Covid a toujours des bonnes choses. Donc attends le prochain Covid, comme ça tu pourras faire la sauce ranche.
On va quand même éviter, hein, c'est possible.
On va éviter. Non, je plaisante, je plaisante. Alors pour cette troisième partie, on va utiliser donc un dessert. On va faire un dessert, c'est le cake crumble poire chocolat. Mais avant de détailler cette recette, Nathalie, j'aimerais que tu nous parles d'un ingrédient qu'on utilise encore une fois souvent pour faire gonfler les gâteaux, et c'est la levure chimique.
La levure chimique ou poudre à levier, poudre levante ou poudre à pâte, c'est un mélange composé essentiellement d'un agent basique tel que le bicarbonate de sodium, un agent acide comme l'acide tartrique, pyrophosphate de sodium et un agent stabilisant tel que l'amidon de blé ou de maïs, se présentant sous forme de poudre blanche et servant à faire gonfler pain et pâtisserie. Alors d'après une directive du Parlement européen concernant les additifs alimentaires, autres que les colorants et les édulcorants, les poudres levantes sont définies de la façon suivante. Les substances ou combinaisons de substances qui libèrent des gaz et de ce fait accroissent le volume d'une pâte. Contrairement à la levure de boulanger, dont l'action dépend de micro-organismes vivants, la levure chimique fait seulement intervenir des réactions chimiques de type acide-base. Tant que la poudre reste sèche, la réaction ne démarre pas. Lorsqu'elle est humidifiée, l'acide réagit avec le bicarbonate de sodium et un dégagement de dioxyde de carbone se produit, ce qui fait gonfler la pâte. Il faut alors la cuire sans tarder. En général, un sachet de levure chimique contient 10 g de poudre, ce qui correspond à la dose pour 500 g de farine. Pour les aliments industriels, la liste des ingrédients précise obligatoirement les composants de la poudre à lever, qui est considérée comme une catégorie d'additifs avec la mention de la catégorie poudre à lever. Alors, les premières levures chimiques sont réalisées par la réaction d'acide levant, du lait aigre, du vinaigre, du jus de citron, avec du bicarbonate de soude. Une forme rudimentaire de ce type de levure est utilisée aux États-Unis vers 1790, mais elle laisse un arrière-goût amer et la réaction est si rapide que la pâte utilisant la levure doit être cuite rapidement. Une amélioration apparaît avec l'utilisation comme acide de la crème de tartre obtenue à partir de résidus de barils de vin. Mise au point par Alfred Bird en 1835, cette levure est commercialisée en 1850. En 1864, le sel de phosphate monocalcique est breveté par Eben Norden je ne sais plus, Horsford, pour une utilisation commerciale dans la levure. Vers 1885, le sel de sulfate de sodium d'aluminium remplace également la crème de tartre. Ça fait bizarre, crème de tartre. Car ces sels agissent à basse température et ne laissent pas de goût, d'arrière-goût amer, en fait. Le succès populaire de la levure chimique se développe en 1891, lorsque l'entrepreneur allemand August Wedeker portionne la levure dans de petits sachets et apporte sa garantie de l'efficacité du produit en le vendant sous son nom propre.
Merci Nathalie pour cette page d'histoire. Alors, si un jour vous n'avez pas de levure chimique, moi j'ai déjà fait ce genre de choses-là, la maïzena, elle peut être, puisque c'est de la... c'est de la maïs. Farine de maïs, ouais. Et vous pouvez mettre une cuillère à café de
bicarbonate de soude.
Et en fin de compte, les deux réunis vont vous faire une pâte légère et une pâte levée. Voilà, donc si un jour vous n'avez pas ça, la levure chimique dans vos armoires, eh ben, vous pouvez prendre ces deux ingrédients. Alors si vous n'avez ni l'un ni l'autre, vous êtes sûr que votre gâteau ne montera pas. Hein, donc voilà, si on veut un beau gâteau, faut toujours avoir de la levure chimique ou de la levure boulangère. Voilà, c'est deux ingrédients qu'il faut avoir dans vos placards, entre autres. Enfin, moi, c'est toujours ce que j'ai et maintenant, il ne m'en manque plus. Et j'ai toujours du bicarbonate aussi et j'ai toujours de la maïzena parce que je trouve que c'est indispensable à la cuisine. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? On fait une petite pause avant l'explication. Est-ce qu'on a le temps, Théo, maître du temps? Il ne me répond pas. Eh bien, on continue. Alors, nous allons donc vous rappeler les ingrédients de ce cake, de ce cake crumble poire chocolat. Pour ça, il vous faut 200 g de farine, un sachet de levure chimique, 180 g de cassonade, 200 g de beurre fondu, 4 œufs, 40 g de cacao en poudre non sucrée, 2 poires mûres mais fermes, donc comme je l'ai dit en début d'émission, ou alors de la Comice ou de la William qui en ce moment sont sur les marchés et dans vos étals. Pour la pâte crumble, vous allez avoir besoin de 50 g de farine, 50 g de beurre mou, 50 g de poudre d'amande, 50 g de cassonade et... au niveau matériel, vous aurez besoin d'un robot, batteur, d'un couteau, d'un saladier, d'un plat à cake et d'une feuille de cuisson. Alors, vous avez besoin de 15 minutes de préparation et une heure de cuisson, mais il y aura aussi un temps, il y aura 2 heures de repos. Voilà, bah écoutez, déjà dans un premier temps on va se dire, je vous explique après la recette parce que Théo a besoin d'une pause, alors on va se mettre à une pause et puis on reviendra sur la recette, l'explication de la recette tout de suite après. Merci, à tout de suite. When you hold me, there's a place I go. It's a different high. Oh no. When you touch me, I get vulnerable in a different light. Oh no. I'm
jusqu'à 20h30, cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Alors, nous revenons pour notre cake, crumble poire chocolat. Après, peut-être qu'on dira, on dira des dérivés,
des variantes.
Ouais. Voilà, des variantes, des dérivés, voilà. Alors, pour la pâte à cake, donc vous mélangez les ingrédients secs dans un premier temps, c'est-à-dire le cacao non sucré, la poudre de cacao non sucré, la farine, la levure, le sucre, et ça, vous le mélangez dans un bol du robot batteur. Si vous êtes feignant comme moi, vous utilisez un robot batteur. Si vous n'êtes pas feignant, dans ces cas-là, vous le faites à la main. Voilà. Après, bonjour les poignets, vous allez avoir des poignets, des bras musclés.
Voilà, tant que c'est le sec, ça va.
Oui. Mais après, on va attaquer. Oui. Donc, on va faire fondre le beurre. Donc là, vous le faites fondre au micro-ondes, c'est les plus rapides. Ouais. Alors, si vous le faites à la casserole, faites attention qu'il ne brûle pas. Hein, donc important. Donc on rajoute le beurre à la préparation donc qui a au cacao, farine, levure et sucre. On mélange bien et puis on va verser les œufs et on va mélanger de nouveau. Et c'est là que ça va commencer un petit peu à durcir. Et il faut que vous ayez une je dis toujours hein, la préparation, faut qu'elle soit homogène. C'est-à-dire que vraiment tous les ingrédients soient incorporés ouais. ensemble, que vous ayez le moins possible de grumeaux. Alors si vous avez une farine qui donne des grumeaux, il faut juste la passer un petit peu au tamis, hein, tout simplement. Voilà. Mais en général, maintenant les farines elles sont assez fluides ouais. pour faire des bons gâteaux et des bonnes recettes. Là par contre, à ce moment-là, on va réserver donc cette pâte. À cake 2 heures au frigo pour qu'elle se durcisse un petit peu puisqu'on a mis du beurre dedans. Ça sera plus facile pour nous pour le montage après. Et puis pendant ce temps-là, bah, vous avez le temps de peler et de vider les poires, de les couper en petits dés et puis on va réserver. Et puis on va préparer aussi la pâte à crumble. Alors pour ça, on va mélanger la farine avec la poudre d'amande, la cassonade. Alors vous pouvez la prendre comme la cassonade comme on a un petit peu granulée ou la cassonade compacte, ce qu'on appelle nous on appelle ça de la vergeoise.
On appelle ça
de la cassonade, mais c'est de la vergeoise oui. Qui est écrit sur le paquet. Voilà, donc vous... Alors, je dis nous, c'est les ch'timis. Oui. Parce que nous, la cassonade, elle est compacte en général. Elle est rousse ou elle est brune. Voilà, donc voilà, elle est blonde ou elle est brune. Oui. Et ça s'appelle de la cassonade. Maintenant, dans les magasins, la cassonade, c'est du sucre de canne.
Ou sucre roux.
Sucre roux, voilà, tout à fait. Voilà, donc vous mélangez bien, donc vous pouvez utiliser la vergeoise ou de la cassonade, c'est comme on veut, c'est comme on se régale. Et puis vous allez incorporer petit à petit le beurre, donc coupé en petits dés. Hein. Plus les dés seront petits, mieux le mélange se fera. Hein, si vous commencez par la motte, c'est pas la peine, vous êtes encore ce soir à mélanger. Donc vous émiettez
faites
bien.
Faites-le à la main.
Oui, faites-le à la main. Voilà.
Retirez les bacs, vous lavez bien les mains.
Exactement.
Et c'est beaucoup mieux à la main.
Exactement. De toute manière, le meilleur mélange, c'est à la main. Oui. Sur beaucoup de choses. Alors après, moi, comme il y a une émission, je vais prendre des gants, hein, qui est des cuillères, oui. des fouets, des machins. Mais pour fouetter, là, on ne peut pas faire autrement que prendre un fouet. Mais plutôt qu'une cuillère en bois ou d'une maryse, la main, c'est le meilleur ustensile. À partir du moment où elle est propre, on est bien d'accord.
Bien sûr. Hein, donc, mais là, pour le crumble, c'est important parce qu'il faut effriter
oui.
la pâte.
Oui, oui. Alors, d'autres prendront parce qu'ils n'aiment pas mettre les mains dedans. Vous pouvez prendre une fourchette et effriter, mais ça ne fera pas le même aspect.
Ouais.
Donc vous mélangez, donc on va préparer donc ce crumble. Donc pour ça, on émiette bien donc la farine, la poudre d'amande, la cassonade avec les petits carrés, les petits cubes du beurre. Merci Nathalie. Et quand les 2 heures sont passées, on va chemiser. Alors vous pouvez très bien prendre votre plat à cake, mettre du beurre à l'intérieur et le fariner. Moi, franchement, j'aime bien mettre un papier à l'intérieur parce que comme ça me laisse le temps de le sortir. Il est impeccable quand je le sors. Et dans les plats à cake, le problème qu'il y a, c'est que bah, si vous oubliez une partie du moule, de beurrer le moule et de le fariner, eh ben, ça accroche. Mmh. Et ce goût de farine-beurre sur le côté du cake, moi, j'avoue, j'accroche pas. Donc, je chemise et je me prends pas la tête. Hein. Je coupe pas, machin, je fais pas des coupes. Je chiffonne mon papier sulfu. Et une fois que j'ai chiffonné mon papier sulfu, je le remets bien à plat et je le mets dans mon moule et ma pâte va épouser le moule. Voilà, tout simplement. Donc vous versez l'appareil du cake. Vous répartissez bien toute la pâte à cake entièrement. Et puis, vous allez répartir tout en plein milieu, hein, donc dessus, les petits dés de poire. Voilà, donc vous y mettez un peu par-dessous et puis vous recouvrez de crumble émietté par-dessus. Il faut vraiment que tout soit recouvert en couches. Voilà. Et puis vous allez enfourner 1 heure à 170 degrés. Vous démoulez et vous laissez refroidir. Vous démoulez à chaud. D'où l'intérêt de votre papier sulfu. Ouais. Parce que dans ces cas-là, vous laissez deux petites oreillettes et vous le soulevez, vous le laissez sur une grille tranquillement à refroidir et vous pouvez le trancher après une fois qu'il est refroidi et vous le dégustez. Voilà. Eh bien, écoutez, on voulait vous parler des variantes, mais ça sera pour une autre fois.
Oui, on n'a plus le temps.
On a déjà plus le temps, voilà. On arrive déjà à la fin de l'émission. Et si on veut respecter les autres émissions, bah, il faut qu'on fasse attention à l'heure. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Même jour, même heure.
Même pomme.
Comment ?
Même pomme, comme disait Patrick Bruel.
Ah oui, même pomme, d'accord. Oui, oui bah, il faudra que tu me dises ça un autre jour. Voilà, on vous un bon appétit, une bonne soirée, une excellente soirée. Prenez soin de vous et puis très très bonne soirée à tous.
Bonne soirée. Ouais, bon appétit.